Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve sur l'émission Philosophie Feel Good, et pas que, qui parle avec Adrien.
Salut.
De biais cognitif, et avec Céline, de perception dans les médias.
Salut.
Et ce soir, cet après-midi, ou ce matin, comme vous voulez, on va enchaîner sur tout de suite sur la musique Gorilla Feel Good Inc. On se retrouve donc sur CELAB, une émission philosophique, mais pas que. Et aujourd'hui, on va parler de perception. Donc déjà, il faut définir ce que c'est la perception. La perception, c'est une faculté par laquelle notre conscience accède à un monde extérieur en récoltant des informations fournies par les sens. Donc ici, les informations sont simples, c'est faculté, conscience, monde extérieur... nos sens, ce genre de mots qui sont primordiaux. Ici, il serait tentant de croire que notre perception du monde est un miroir fidèle de la réalité. Mais ce dernier n'est pas... Il n'est pas tout à fait fiable, on va dire, c'est ça ?
Exactement.
Parce qu'on comprend bien, qu'on ne perçoit pas tout. Il y a des choses qui sont indiscernables par nos sens. On utilise des outils, par exemple des longues vues, des microscopes, ce genre de choses.
Pour augmenter nos sens, tu veux dire ?
Pour permettre d'avoir plus d'informations sur le monde extérieur, en fait.
Ah, ok.
Donc c'est ici que la notion de perception nous amène à poser la question récurrente en histoire de la philosophie, celle de l'origine et le fondement de nos connaissances. Bon, donc le problème ce serait, est-ce que la perception humaine n'est donc qu'un point de vue limité sur le réel ?
Déjà, de base, si on a besoin de longue vue, ça a un minimum limité.
Alors là, on observe tout de suite que pour toi, par exemple, c'est clairement logique que c'est un point de vue limité. Mm. Après, il y a aussi une autre question qu'on pourrait se poser, c'est est-elle une forme d'hallucination ou un rapport au monde dont il faut cultiver la richesse? Donc, est-ce que à la Descartes, on va douter de tout ce qu'on perçoit,
ouais.
Ou au contraire, il faut, comme un bon empiriste, chercher à faire le plus d'expériences possible. Mais on verra ça. Je vais pas tout vous dire.
Okay.
Ici, deux doctrines philosophiques s'affrontent, les empiristes et les rationalistes, qui ne vont pas répondre de la même manière. Ça, c'est sûr. Moi, je vais vous présenter le point de vue d'un rationaliste. Mmh. Attention. Pour le moment allemand, enfin la phase de prononciation allemande.
Feel good, c'est tout un truc. Hein. Ah, on fait des cours d'allemand dans l'émission. Alors là, si vous attendez pas à apprendre des choses, vous allez en apprendre. Allez,
vous êtes prêts? Gottfried Wilhelm Leibniz.
Ah, Leibniz.
Leibniz.
Ouais.
Alors, né en 1646 à Leipzig, en Allemagne.
Une très belle ville.
Et mort en 1716 à Hanovre. En Allemagne aussi. Donc période du XVIIe siècle. Enfant, le jeune Leibniz vagabondait dans la bibliothèque de son père, défunt. Il fréquentait toutes les disciplines, ce qui lui fera de lui l'un des derniers savants universels. Une brute dans tous les domaines, en fait.
Ah ouais.
Comme toi, Adrien.
Ah, comme moi. Oh, c'est sacrément une brute, dis donc.
À noter que Leibniz est par exemple l'inventeur de la notion de fonction en maths. C'est par contre un peu le souffre-douleur, on va pas se cacher, de Voltaire, qui
Ah oui,
il a tenté de le, enfin il l'a clashé, on va dire.
Voltaire l'a clashé.
Oui, en fait, dans Voltaire se moque de lui dans un conte Candide.
Ah ouais.
D'une vision de l'histoire qui prête à Leibniz, c'est-à-dire que Leibniz a cette vision de l'histoire, c'est que dans ce monde, c'est tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes.
Ah.
Alors que Voltaire, il explique qu'il n'a pas regardé le malheur des hommes dans ce bas monde. Enfin bref, ça c'est un petit peu schlein.
Attends, mais tu veux dire que le roman, donc Candide, oui, c'est inspiré de Leibniz en fait. En fait, Leibniz c'est le Candide en fait, original quoi.
Ouais, c'est un peu ça en fait. Mais c'est surtout un petit clin d'œil à la vision de Leibniz qui rêve un peu, qui dit que tout va bien dans le meilleur des mondes,
ce genre
de
choses. Naïve.
Voilà, c'est ça.
Regarde.
Alors, il a fait des œuvres majeures, la monadologie, me demandez pas c'est quoi la monade.
D'accord.
C'est beaucoup trop compliqué, mais un jour je suis sûr qu'on va y aborder ce thème.
Cool.
Et le nouvel essai sur l'entendement humain, inspiré de l'essai sur l'entendement humain, parce que le nouvel essai c'est sur Leibniz, alors qu'avant c'était sur, si je me trompe pas, excuse-moi, l'essai sur l'entendement humain c'est Kant, si je me trompe pas.
Ok.
Maintenant la théorie. Reprenons avec cette théorie. Maintenant que nous avons cerné le personnage en fait, faisons le lien avec la perception. Mmh. Est-ce qu'il en sait Leibniz là-dessus? Comme je le disais au début, c'est un rationaliste. Un rationaliste estime que la perception ne peut pas fonder la connaissance parce qu'elle est trompeuse. Mais on peut avoir des connaissances sur la raison. Mais qu'entend-on par là, au juste? Je vais vous donner un exemple de sa théorie, des petites perceptions. Les petites perceptions est mentionné dans son livre Le nouvel essai sur l'entendement humain.
Le fameux.
Le fameux. Et c'est d'ailleurs, c'est Locke, c'est pas Kant, je me suis trompé, excusez-moi.
Le nouvel essai sur l'entendement humain.
Non, l'essai sur l'entendement humain,
le 1.
Locke, et Locke c'est un grand empiriste, et Leibniz c'est un rationaliste, mais il s'est inspiré beaucoup de
okay.
Locke.
Donc il se fight, mais quand même il s'inspire.
Bah, ils s'aiment bien. Ils se connaissent pas trop, mais je dois t'avouer, mais ils s'aiment bien.
Ok, pas d'octogone, donc
non,
pour l'instant.
Non, toujours pas.
Okay.
Alors, je vais vous donner un exemple de sa théorie des petites perceptions. Les petites perceptions est mentionnée dans son livre, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc en gros, les petites perceptions sont une infinité de messages sensoriels que nous ne percevons pas consciemment. Je vais vous donner un exemple. Comme l'exemple de Leibniz dans son livre, le bruit de la mer. En réalité, l'addition de la multiplicité des petites gouttes qui se fracassent entre elles forme un bruit, un brouhaha en fait. On peut retrouver aussi cette petite perception dans le quotidien de notre vie en fait. C'est-à-dire que le fait de ne plus entendre les voitures ou le train, ce genre de bruit qui passe près de chez toi en fait,
ouais.
En fait, tu arrêtes de te focaliser là-dessus parce que tu as pris l'habitude, en fait. Cette perception qui devient inconsciente, en fait, est appelé donc pour la unité petite perception. Voilà. Et en tout cas, on peut conclure pour répondre aux questions d'avant. Alors oui, comme tu l'as dit,
ouais.
On n'a qu'une vision limitée sur le réel, car il existe des petites perceptions, selon Leibniz. Mmh. C'est un rapport au monde qu'il faut cultiver, selon lui. Et Leibniz établit un raisonnement sur la perception pour en savoir plus grâce à l'expérience. Voilà.
D'accord. Et t'as dit que du coup, il y avait une espèce de battle d'idées entre deux écoles de pensée qui étaient les empiristes et c'était quoi
les rationalistes.
Les rationalistes.
Et ils vont utiliser la raison pour avoir... la raison, donc...
Les rationalistes ?
Voilà, c'est ça, ils vont utiliser la raison pour avoir des connaissances sur le monde extérieur.
Parce qu'ils croient pas en la perception et tout ça ?
Parce qu'ils pensent que c'est quelque chose de trompeur, en fait.
Ouais, voilà, parce qu'il y a ce qui est plus ou moins vrai, enfin, je veux dire.
Bah, en fait, il faut, dans la vie, il faut choisir son chemin. Donc, en philosophie, soit t'es comme un empiriste, soit t'es un rationaliste. Tu peux pas essayer de faire un peu comme les deux. Même si Leibniz, ça essaye un peu de être un peu dans les deux, comme on l'a vu avec... l'inspiration de l'essai sur l'entendement humain.
Ok, mais du coup, ils estiment que la perception, ça peut être trompeur, et donc ils l'utilisent pas du tout, quoi. Ou
ça dépend de quelles
certaines conditions. Enfin,
par exemple, Platon va pas du tout utiliser sa vue, sa perception des choses, parce qu'il pense que c'est déjà tout en nous les réponses, donc pas besoin de se fier à l'extérieur. Et pareil pour Descartes, il va douter de tout.
D'accord.
De tout, tout, tout.
Okay.
À part de lui.
Oui, parce que j'ai envie de dire, en science, de toute façon, on a des moyens pour limiter la perception.
C'est ça. Donc maintenant, c'est exactement ça. Donc c'est pour ça que on va passer sur la prochaine musique, qui est Système 96, La Perception. Alors, nous avons écouté la musique de Perception, System 96. Et maintenant, nous allons parler, toujours de la perception, avec Adrien, sur les biais cognitifs, c'est ça ?
Exactement. Alors, moi, je vais vous parler un petit peu des biais cognitifs. Alors, dans la vie de tous les jours, on a tendance à confondre notre perception et la réalité qu'on a en face de nous, comme tu disais avec la métaphore du miroir. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler de trucs qui provoquent une différence entre les deux. En gros, des exemples qui font que deux personnes qui vivent exactement la même chose racontent des trucs très différents l'un de l'autre, mais aussi des exemples qui font que deux personnes qui vivent exactement la même chose racontent exactement la même chose, mais se plantent quand même. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a des trucs qui affectent notre façon de voir le monde. Comme tu disais, notre perception, elle n'est pas omnisciente. Il y a des choses qui nous affectent.
Je ne sais pas si on peut parler de qualia, non, dans ces cas-là.
De qualia, c'est quoi ?
Oui, c'est qualia, c'est les expériences subjectives.
Vas-y,
en psychologie, je crois, j'ai vu ça en métaphysique. Donc je pense que c'est des qualia. Hein.
Ah ben sûrement, je sais pas. C'est toi l'expert en qualia là, apparemment. Alors.
Vas-y.
Et donc, je voulais parler des trucs qui affectent notre perception, notre façon de voir le monde. Et ces trucs dont on va parler aujourd'hui, ce sont les biais cognitifs, comme tu nous l'as si bien dit dans ton introduction. Alors, les biais cognitifs, pour être précis, ce sont des déviations systématiques de la pensée logique et rationnelle par rapport à la réalité. Merci Wikipédia pour cette magnifique définition. Donc en gros, c'est les trucs qui nous empêchent, nous les humains, d'être rationnels, et en plus c'est systématique et inconscient. Ça veut dire que c'est des mécanismes qui affectent notre façon de penser, quoi qu'il arrive, et le plus souvent sans qu'on s'en rende compte. Ah oui, déjà l'être humain est irrationnel. Donc, on n'est pas logique, et il y a des auteurs qui ont cherché à lister nos biais, et je vais essayer d'en parler d'un maximum aujourd'hui, parce que les listes sont un petit peu différentes entre les auteurs, il n'y a pas vraiment de consensus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a au moins plusieurs dizaines, donc je vais essayer d'en parler des principaux. Oh. Alors, petit disclaimer, c'est pas parce que notre esprit est biaisé qu'on est con. Les biais cognitifs, ils n'ont rien à voir avec l'intelligence d'une personne. Donc tout le monde a les mêmes biais et tombe dans les mêmes pièges, ok ?
Ensuite.
C'est comme le système de croyance. Croire ou ne pas croire n'a rien à voir avec l'intelligence, mais bel et bien à une méthode, une manière de penser, etc. Donc, alors on va commencer à attaquer la liste. Alors, comme je le disais, il n'y a pas de consensus sur le nombre précis de biais cognitifs, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en a plusieurs dizaines, et on va commencer tout de suite avec les biais qui modifient notre perception du passé, les biais mnésiques, les biais qui affectent la mémoire. L'effet de primauté et l'effet de récence d'abord. On se souvient mieux des premières et des dernières infos auxquelles on était confronté. C'est-à-dire que le milieu des choses, on a tendance à s'en rappeler beaucoup moins. C'est pour ça que quand vous écoutez le dernier album de Medine, les chansons qu'il veut principalement que les gens se rappellent sont au début et à la fin de l'album. Même si en vrai, il préférait qu'on se rappelle de tous ces sons, évidemment. Donc voilà, déjà deux biais très simples qui affectent notre perception du passé. On se rappelle mieux de la première et de la dernière impression. Donc, quand vous voyez votre date Tinder, faites bien gaffe à comment vous vous présentez et comment vous vous quittez. Le reste, elle s'en rappellera à peine de toute façon, donc pas la peine de vous casser la tête. Alors, un autre biais sur la mémoire, c'est un effet que vous connaissez tous si vous écoutez la radio, ce que vous êtes normalement en train de faire, c'est l'effet de simple exposition. C'est l'augmentation de la probabilité d'avoir un sentiment positif envers quelqu'un ou quelque chose parce qu'on a déjà été exposé à ce quelqu'un ou à ce quelque chose.
C'est-à-dire ?
Alors, par exemple, vous écoutez la radio, vous entendez pour la première fois le dernier son de Damso. Vous le trouvez pas ouf. Eh ben, plus vous allez l'écouter, et plus il y a de chances que vous kiffiez. Et c'est pareil pour tout. Plus tu vois quelque chose, plus il y a de chances que tu aimes cette chose. C'est pour ça, entre autres, que la pub marche. Imagine le nombre de fois que tu as vu le logo de ta marque préférée dans ta vie. Genre Starbucks, Apple, Coca-Cola, ce que tu veux. Voilà, maintenant, demande-toi pourquoi tu kiffes autant cette marque. Bon, moi, je sais pas pourquoi tu kiffes autant. Mais ce qui est sûr, c'est que l'effet de simple exposition a joué et que si tu n'avais pas été autant exposé, tu l'aimerais sûrement moins. Ouais. Donc je pense que on commence à voir comment les biais cognitifs changent notre vision du monde. Alors, on va continuer avec les biais de jugement et notamment le biais d'autocomplaisance. C'est un biais qui perturbe radicalement la vision de notre propre passé. C'est la tendance qu'on a à attribuer la causalité de nos réussites à nos qualités propres, donc c'est ce qu'on appelle les causes internes, et nos échecs à des facteurs qui ne dépendent pas de nous, donc les causes externes. Donc c'est-à-dire, on a plutôt tendance à exagérer notre responsabilité dans nos réussites et à exagérer la responsabilité de tout le reste du monde dans nos échecs. Donc en gros, quand tu réussis, t'as plus tendance à te dire que t'es intelligent, que t'as bien bossé, alors que quand t'échoues, t'as plus tendance à te dire que bah t'es quand même vraiment pas chanceux. Hein. Et il y avait des questions pièges quand même dans le partiel. Non mais franchement, si t'avais eu le temps de réviser, tu l'aurais eu.
C'est donc de la mauvaise foi en fait. c'est carrément ça. C'est de la mauvaise foi.
Mais c'est pas la mauvaise foi dans le sens où c'est une erreur honnête. C'est les gens y croient sincèrement ça.
D'accord.
Tu vois ce que je veux dire ? Les biais cognitifs, c'est pas de la mauvaise foi, genre tu fais semblant. C'est que sincèrement, tu penses que quand t'échoues au partiel, que c'est d'accord. pas vraiment ta faute, mais que c'est plus au reste. En fait, c'est que t'as tendance à exagérer la faute des causes externes.
En fait, l'humain est naturellement de mauvaise foi. En fait.
Non,
c'est pas. C'est...
Alors, on Sartre se calme sur les conclusions hâtives.
Sartre, il dirait ça.
Voilà. Tu... Non, mais c'était le but de mon essai. En fait, c'était juste de dire que l'humain était de mauvaise foi. calmons-nous. C'est juste qu'on a tendance à exagérer les causes des autres, mais ça veut pas dire que tu vas tout mettre sur la cause des autres. Ouais. Tu vois. Genre, si tu te plantes, tu vas quand même dire. Non mais c'est vrai que quand même je suis pas très fort. Mais tu vas plus te dire ah c'est de la faute d'autres choses. C'est normal parce que pour soi-même, pour l'estime de soi et tout ça, c'est très dur de se dire j'ai pas réussi parce que je suis nul. Genre c'est horrible. Donc il y a le cerveau qui essaie de corriger ce genre de truc là. Alors donc merci de m'avoir parlé de ça. Maintenant je suis totalement perdu dans mes trucs. Alors voilà. Alors donc oui, et le fait de réussir. Ou de ne pas réussir à ses partiels me fait penser à un biais qui n'affecte pas notre perception du monde mais qui est une distorsion du monde en lui-même. C'est la croyance en un monde juste. Et là, ça fait penser à ce que tu disais par rapport à Candide. Donc, la croyance en un monde juste, c'est la croyance en une méritocratie. On obtiendrait ce qu'on mérite et on mériterait ce qu'on obtient. C'est un biais que l'on a de voir le monde comme beaucoup plus juste qu'il ne l'est réellement. Mmh. Alors, et pas forcément justement de le voir parfaitement juste, mais de le voir beaucoup plus juste qu'il ne l'est réellement. Donc c'est assez intéressant parce que les gens mettent en place des stratégies pour maintenir cette croyance en un monde juste. Et une des stratégies majeures mises en place, c'est quand on observe la souffrance injuste de personnes innocentes, de considérer que la victime mérite sa souffrance tout simplement. C'est-à-dire qu'on a un monde injuste en face de nous, et des victimes de ces injustices du coup. Et le réflexe, entre guillemets, pour maintenir notre croyance en un monde juste, c'est de les blâmer pour ce qu'elles ont subi. Donc c'est les fameux « Non mais t'as vu comment elle était habillée, etc. » Donc, un biais que vous...
je veux juste rebondir sur le fait que, moi tout à l'heure sur l'instant promo, on parlera justement de Nietzsche sur la citation « Dieu est mort ». Et ce que tu viens de dire, c'est exactement l'explication pourquoi on dit « Dieu est mort ».
Ah oui ?
Donc on verra ça tout à l'heure.
Parfait. Donc, merci, t'as réussi à placer Nietzsche dans mon truc, c'est bon. Maintenant mon texte est devenu un texte intellectuel. Magnifique. Merci beaucoup. Alors, donc... Un biais que vous connaissez si vous avez dans votre entourage des gens qui croient que la Terre est plate, que les Illuminati dirigent le monde ou que le réchauffement climatique n'existe pas, c'est le biais de confirmation. Alors, le biais de confirmation, c'est du sérieux. C'est le genre de truc qui peut vraiment séparer la réalité et ta perception de dizaines de bornes l'une de l'autre. Alors qu'est-ce que c'est ? Simplement, c'est de privilégier les infos qui confirment nos idées préconçues et accorder moins de poids aux infos qui infirment nos idées préconçues. Donc, un exemple. Si tu es négationniste climatique et que tu estimes donc que le réchauffement climatique causé par l'activité humaine n'existe pas, eh bien, les papiers qui décrédibilisent Greta Thunberg, tu vas leur accorder beaucoup de valeur. Alors que le consensus scientifique et toutes les études revues par des pairs qui vont avec, ça va pas avoir tant de valeur que ça à tes yeux. Du coup, le biais de confirmation solidifie sans cesse nos idées préconçues tout en diminuant la valeur de ce qui pourrait les briser. C'est un biais tellement balèze qu'il joue un rôle dans beaucoup d'autres phénomènes psychologiques, comme la persévérance de conviction, qui est le fait de continuer à croire après que les preuves de cette croyance soient démontrées fausses. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs sectes qui, au cours de l'histoire, ont annoncé la fin du monde à un jour précis, et une fois le jour arrivé et le monde toujours là, les croyants ont continué à croire et à suivre la secte. Ils se disaient qu'ils n'étaient pas encore assez méritants pour que ce jour arrive, ce genre de truc. Les types ont eu la preuve que leur croyance était fausse, mais ils ont continué à croire quand même, tout ça à cause du biais de confirmation. Voilà, c'est quand même pas mal l'esprit humain, comment on peut distordre la réalité. Donc comme tu disais, il faut faire gaffe un petit peu à ces trucs-là, notre perception ne reflète pas exactement la réalité. Alors, maintenant j'ai envie de parler de deux biais cognitifs qui concernent les objets. Donc là c'est deux petits biais un petit peu simples. Donc le premier c'est l'effet IKEA. Alors je vous avoue que je l'ai pris aussi parce qu'il a un nom rigolo. Alors... En vrai, donc ça marche avec tout ce qu'on monte soi-même, les Gundam, les Lego, et même certains Kinder Surprise. C'est on accorde une valeur plus grande au produit qu'on a partiellement créé. Voilà, t'as deux tables identiques, il y en a une que t'as montée, l'autre non. Tu vas estimer comme meilleure la table que t'as montée, alors que c'est les mêmes. Ok. Alors, un autre gros morceau, c'est l'erreur d'attribution fondamentale. L'erreur d'attribution fondamentale, c'est le fait d'accorder une importance disproportionnée aux caractéristiques internes des gens, au détriment des facteurs externes, des situations, etc. Donc en gros des faits. Alors, on me dit à l'oreillette que j'ai pas beaucoup de temps et c'est extrêmement dommage parce que j'ai des trucs très intéressants à vous raconter. Alors voilà, je vais finir en vous disant de faire gaffe à ce que vous voyez. Ne croyez pas que vous êtes rationnel, vous l'êtes pas, et personne ne l'est. Alors vérifiez les faits, remettez-vous en cause une fois de temps en temps, et vous devriez avoir une vision un tout petit peu plus proche de la réalité qu'avant.
Ce sera tout pour Adrien. Donc, on va passer sur la musique Ying Ying,
The Sacred Valley of Cusco.
Wow.
Yeah.
J'aurais pas dit mieux.
Eh ben écoute.
Tout de suite. on se retrouve enfin et encore. Maintenant, on va parler toujours de perception, mais avec Céline. Et cette fois-ci, ce sera sur les médias.
Oui, voilà, ça concernera les médias. Et du coup, voilà, aujourd'hui, nous parlons donc de perception à travers différents auteurs, différents aspects et domaines de recherche, comme avec Leibniz ou alors avec les perceptions cognitives.
Les biais cognitifs,
oui. Les biais cognitifs, pardon, excusez-moi.
Je vois qu'on a bien écouté pendant la partie. Merci, c'est un plaisir.
Oui. Mais du coup, oui, bah du coup, moi j'avais envie de vous parler avec vous d'une perception particulière qui, bah, si comme moi, vous vous renseignez sur l'actualité en écoutant la radio, comme sur Syllab, par exemple, ou alors en lisant des articles sur Twitter, on peut tomber sur des sources un peu douteuses. Je sais pas si vous avez déjà rêvé de tomber sur des sources douteuses sur Twitter.
Ah non, moi je tombe que sur des sources extrêmement fiables.
C'est attention. Vrai.
Ah bah sur oui. Twitter.
Non, on est d'accord, sur Internet presque tout le fort. Toi,
peut-être au niveau des comptes Twitter, des fois on peut tomber sur des choses bizarres.
Mais ah bah clairement,
oui.
Mais enfin bref, j'avais envie de parler de l'impact qu'ont les médias sur la perception du monde qui nous entoure. Donc vaste programme, vous allez me dire, mais question intéressante selon ma personne. Et c'est moi qui décide, ok. Du coup...
Girl power.
Exactement. Du coup, bah, dans le contexte politique actuel, on a beaucoup de personnes de tous bords politiques qui semblent avoir chacun leur avis sur les médias. Et du coup, on a l'impression que... Alors attendez, je me suis perdue dans mes notes. On a l'impression que le terme de fake news est utilisé à tout bout de champ et tout le monde ne sait plus quoi penser de ça. En fait, c'est comme si toutes les perceptions qui venaient à nous, les informations pardon, qui venaient à nous n'étaient que illusions qui détournent de la réelle information en fait.
De la vérité tout simplement.
De la vérité tout simplement, ouais. Et du coup, cela a des airs de revisitation contemporaine de l'allégorie de la caverne de Platon.
Wow.
Alors attention, je vais expliquer vite fait l'allégorie de la caverne de Platon, mais de manière très vulgarisée, parce que
Juan, l'expert en philosophie ici présent, va te juger très
ouais,
facilement.
Ouais, c'est ça, exactement. Alors on va expliquer ça de manière très simple. Donc en gros, c'est une personne, elle n'est jamais sortie de sa cave. Et en fait, elle croit connaître la... véritable réalité en regardant les images qui défilent devant lui, alors que nenni, ces images sont en fait des ombres fabriquées de toutes pièces par les véritables détenteurs de la vérité.
Ah, mais non!
Mais si, je te jure. Et du coup, pour passer le temps, les véritables détenteurs de la vérité s'amusent à prendre pour des cons les gens coincés dans la grotte. Mais du coup, est-ce que ce serait pas nous, les gens coincés dans la grotte, à être influencés par les médias? On ne sait pas. Peut-être.
C'est une belle allégorie, tiens.
Ouais.
Je sais pas qui l'a fait.
Et du coup, le reste de troupeaux d'humains emprisonnés de la perception, de cette conception du monde qui nous piège et qui nous enferme dans une perception du monde détournée de la vérité. Donc voilà. Alors du coup, en me posant cette question un peu sordide et très bizarre, je suis tombée sur un texte qui s'appelle « De la perception à la représentation du risque, le rôle des médias ».
Wow.
Alors, il est disponible gratuitement sur le site du Cairn et un lien sera mis à votre disposition sur le site de Syllab si vous voulez le lire. Il est très intéressant. Et du coup, c'est un texte de Hélène Joff et de Brigitte Orphalis. Ce sont deux chercheuses. Et en fait, ça fait un résumé un peu des recherches de chercheurs qui se sont regroupés et qui ont fait des études et encore des études pour évaluer le rapport entre les représentations des situations dites à risque dans les médias et leur façon de l'aborder et la perception qu'ont les auditeurs, spectateurs de ces perceptions, enfin de ces phénomènes dits risqués, voilà. Et du coup, par exemple, il parle à un moment du chercheur Kinzinger qui a évalué en 1998 la couverture médiatique effectuée sur le virus du sida en Angleterre et qui a remarqué qu'à cette époque, une grande partie de l'opinion publique considérait le continent africain comme vraiment le berceau du sida, que tout le monde, dès que t'allais en Afrique, t'allais avoir le sida, alors que en fait pas du tout quoi. Et donc voilà, sinon Hélène Joff et Brigitte Orphaly, elles énumèrent des différentes recherches effectuées sur le sujet. Ça peut être intéressant de jeter un coup d'œil, comme je l'ai dit, à l'article si ça vous intéresse.
Et du coup, c'est à travers les médias qui pensaient ça
ouais, en fait c'est
cette vision là
ouais,
de l'Afrique.
Ouais, ouais, en fait, c'était une campagne de médiatisation comme ça. Et
oh mon dieu.
Ouais, ouais, ouais. Et donc voilà. Du coup, de cette constatation, on peut se poser une autre question qui vient d'un de mes esprits. Est-ce que nous sommes atteints du syndrome du grand méchant monde?
Ah, je pensais que tu allais dire du sida.
Ouais, non, non, non. mais non, du coup, je voudrais vous parler du syndrome du grand méchant monde. Et c'est en fait c'est une expression sortie pour la première fois de la bouche de Georges Gerbner suite à l'observation des effets de la télévision sur notre personne. Et il est présuppose que nous surestimons les actes de violence de la vie en général si on regarde trop la télévision, en gros. Okay. Et donc voilà, en fait, il y a une vidéo très intéressante de Horizon Ghoul, c'est une chaîne YouTube, qui a fait une vidéo du coup sur... sur le syndrome du grand méchant monde. Et du coup, au fil de la vidéo, on apprend par exemple l'existence d'études faites sur l'impact de la télévision sur notre peur du monde. Et on voit par exemple le psychologue Joseph Dominique qui a fait des études sur des collégiens en leur soumettant à un régime particulier de télévision. Et du coup, il a scindé les cobayes en deux groupes. Le groupe 1 a été soumis à une dose intense de télévision et le groupe 2 à une dose plutôt modérée. Et ensuite, il a évalué leur perception du danger face au monde qui l'entoure. Donc, il lui a mis des exemples en fait en face d'eux et leur a demandé à quel pourcentage ça pourrait leur arriver dans la vie. Par exemple, se faire agresser. Voilà. Et en fait, il a... évaluer leur perception du danger face au monde qui nous entoure. Et sans surprise, c'est le groupe 1, donc celui qui a été le plus exposé à la télévision, qui était le plus méfiant. Donc voilà.
Wow.
Donc voilà, c'était un article et Horizon Ghoul, ce dont je voulais vous parler, voilà, donc la perception dans
mais
les...
Donc, si j'ai bien compris, c'est à travers la télévision que les gens ont plus de crainte. Après, ensuite.
Ouais, en fait, c'est surtout. Ouais. En fait, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites par rapport à la télévision. Et ouais. Et du coup, on pourrait aussi parler du livre de Bourdieu sur la télévision, qui a fait une étude.
Un grand sociologue, énorme. D'ailleurs.
Ouais, ouais, ouais. Pierre Bourdieu, si vous connaissez.
Bah.
Voilà.
Alors, maintenant que on a fini tous notre petit moment de sur les théories en psychologie ou en philosophie ou en sciences humaines, c'est-à-dire c'est ça
oui, oui, oui.
On peut vas-y, continue.
Et donc maintenant on va lancer tout de suite la musique Ratata Gaiety Burg. Thank you.
Syllab.
Ah, Radio Sauvage.
Ça va être la même limonade, là.
Donc, comme vous avez entendu, on se retrouve sur Syllab. Et c'est le moment de parler de l'instant publicité, l'instant culture.
L'instant culture, ça fait un petit peu bon.
Alors, moi, je vais vous parler d'un manga qui s'appelle Ainsi parlait Zarathoustra. Donc c'est de, donc
ça a l'air très
fait,
bien.
Ouais, c'est juste le titre du livre de Nietzsche en fait, mais en manga.
Ah ouais. Okay.
C'est-à-dire que en fait ce manga, il va traverser avec un héros, je crois qu'il s'appelle
Nietzsche.
Non, il s'appelle pas Nietzsche.
Il s'appelle.
Mais en tout cas, il rencontre Zarathoustra en fait. Il rencontre le sensei, tu vois, le big boss.
Mais c'est la biographie de Nietzsche ou c'est l'explication de ses concepts principaux
C'est Katsuki en fait, le
nom du mec,
le héros qui va évoluer pendant son enfance.
Ok.
Et il va passer par des étapes que Nietzsche appelle des étapes en fait que existence, tu vois.
Ah mais c'est le chameau, le lion et tout ça.
Ce genre de choses,
oh
voilà, exactement. Exactement.
C'est incroyable. Chameau, le lion de tout ça, c'est quoi ça?
Alors, il passe par la première étape, donc il est un petit gosse et tout. Il joue au foot et tout, mais il ne gagne pas. Il ne gagne pas au foot. Et il fait que perdre d'ailleurs. Mais c'est pas très grave vu que il rencontre Zarathoustra. Et à ce moment-là, il comprend que ça faille. Le fait que il ne gagne pas, c'est qu'il ne croit pas. Comme tout à l'heure en fait, il croit pas en lui. Il croit une autre identité, donc Dieu, qui lui permettrait de le faire gagner, tu vois. Tu vois ce que je veux
d'accord.
dire. C'est que il va pas se surpasser, il va juste attendre que Dieu agisse sur lui. Mais quand ça n'arrive pas, il remet en cause Dieu en fait. Et ça, c'est Dieu est mort en fait. Ça, c'est la citation.
Ah, c'est pour ça Dieu est mort.
C'est ça, exactement.
Et du coup, c'est la phrase qui te permet de t'extirper de ça et de toi-même.
Et Zarathoustra nous explique justement que Dieu est mort, ce genre de choses. Que bah, les gens ils ont fini par plus croire en Dieu. Et c'est le moment où Dieu a fini par mourir. Et ensuite, il a deux autres principes, le surhomme et le nihilisme, positif et actif. Voilà, ça c'est deux autres notions très, très connues de Nietzsche en fait.
Ok, d'accord. Et du coup, comme ça, on apprend les concepts un petit peu plus facilement, j'imagine, qu'avec les bouquins, qui sont un petit peu compliqués à lire. J'imagine.
Ça, c'est complètement de la vulgarisation scientifique et c'est beaucoup plus fun, c'est sûr.
Ok, ok.
Et du coup, toi, tu l'as lu il y a longtemps? Ou alors, t'es tombé dessus l'année dernière ou,
Non, ouais, c'est il y a vraiment pas longtemps.
D'accord.
En fait, je cherchais un... En fait, c'est Cyrus North, sur YouTube, qui a présenté ce manga. Et il a expliqué qu'il y avait aussi Karl Marx, Le Capital.
Ouais.
Donc...
Il y a un manga aussi sur Le Capital
c'est
Karl
ça.
Marx. D'accord.
Dans la même édition, Kuro Savoir. Donc foncez vite si vous voulez apprendre de la philosophie en, en vous amusant.
Voilà.
Qui veut présenter son...
Moi j'ai bien envie de parler, alors j'ai deux choses, je sais pas si j'aurai le temps encore une fois, mais j'ai envie de parler de Horizon Gull parce que Céline en a parlé, donc il y a une chaîne YouTube qui parle de psychologie sociale et tout ça. Et en plus de la vidéo qu'elle a présentée, il y a aussi donc, une vidéo sur les biais cognitifs. Il y en a une sur l'effet de rareté, ça s'appelle. Je vous conseille complètement d'aller voir tout ce qu'il fait. Parce que, ok, c'est des vidéos assez longues, mais c'est très très fouillé.
Ça dure une heure. Hein,
ouais, ça dure un petit peu longtemps. Mais franchement, c'est des concepts qui sont très rarement expliqués. Parce que souvent, les vulgarisateurs scientifiques, ils vulgarisent pas de la science humaine et tout ça. De la science humaine, pardon. Et donc, voir un mec parler de psychologie sociale, je trouve ça très très bien. Et aussi, je trouve que c'est quelque chose qui est très important à savoir. Justement, l'effet de rareté, le syndrome du grand méchant monde et tout ça, c'est vraiment des savoirs, je trouve, qui affectent notre vision du monde et qui ont de l'importance dans nos vies quotidiennes. Donc foncez, c'est Horizon Gull sur YouTube. Ouais.
Et en plus, ce qui est très intéressant, enfin, c'est très fun en fait d'avoir la vidéo parce que c'est vraiment des personnages avec des cagoules, avec des lunettes, des capuches, enfin, on a l'impression que c'est des bandits qui nous apprennent un peu les sciences humaines, enfin, c'est très intéressant.
Ouais, ça m'intéresse, franchement.
Ouais, ouais.
Je pense que j'irai voir.
Et aussi, il y a évidemment le bouquin de Bourdieu donc, que tu as cité vite fait, qui s'appelle Sur la télévision. Et donc, il explique le changement journalistique avec un point de vue sociologique. D'ailleurs, il a écrit ce bouquin après avoir été reçu sur des plateaux télé un petit peu mal, on va dire, où il s'est rendu compte que la distribution de la parole et la capacité qu'il avait à passer une idée était un petit peu limitée. Du coup, il a écrit ce bouquin, que, en fait, à la base, était juste un discours qu'il a déclamé sur Arte. Mais vous pouvez le lire, c'est 8€ sur Amazon, voilà, c'est pas très cher, et c'est aussi le bouquin le plus simple à lire de Bourdieu, parce que souvent on entend que c'est un très bon auteur, mais il écrit vraiment, c'est très dur à lire. Donc sur la télévision, c'est le seul bouquin qui est simple à lire, ça coûte pas cher, allez-y, lisez-le.
C'est donc tout pour aujourd'hui, cette émission, qui a été la première émission pour
oui,
nous tous.
Le pilote.
Ah, qui a été un plaisir incroyable.
Ça a été un plaisir.
C'était très cool.
Bah, je vous remercie, merci la technicienne, merci.
Merci Yasmine,
beaucoup.
Merci Juan, merci Céline.
Merci Adrien.
Merci.
Donc on se retrouve peut-être, ou peut-être pas. On ne sait pas, on verra bien.
On espère.
Retrouvons-nous. Allez.
Adieu.
Salut.